Bonjour, aujourd'hui nous vous parlerons de l'alimentation et des manières de la rendre plus durable. Notre alimentation a en effet un impact sur l'écologie et notre santé. Nous sommes 6 journalistes à avoir travaillé sur ce sujet et nous nous demanderons dans ce podcast comment peut-on s'alimenter d'une manière plus durable. Nous vous donnerons différents conseils pour mieux s'alimenter et mieux consommer. Nous commencerons par Nesrine et Angela qui vont parler des problèmes et de l'impact de notre façon de nous alimenter.
Merci Lydia. À ton avis Nesrine, quelles sont nos mauvaises habitudes alimentaires ?
Nos mauvaises habitudes alimentaires sont de manger trop de viande et souvent trop gras et pas assez sain.
En effet, on gaspille trop, on ne prend pas assez le recyclage au sérieux.
C'est ce qui fait que l'on produit souvent beaucoup trop pour ensuite jeter, ce qui a un impact fort sur notre santé et notre planète. Mais dis-moi, comment on fait pour produire en grande quantité ?
C'est simple, l'agriculture intensive utilise en grande quantité des pesticides et des engrais chimiques, ce qui peut donner des maladies telles que des cancers du côlon par exemple.
Cette forme d'agriculture va affecter fortement la nature, entraînant des pollutions, la sécheresse dans certaines régions, la disparition d'espèces menacées, en participant fortement au réchauffement climatique.
Anastasia et Lina vont maintenant nous parler de l'agriculture durable et de la transition alimentaire.
Quels sont les objectifs de l'agriculture durable ?
Une agriculture durable doit nourrir la population et développer l'économie tout en limitant son impact sur l'environnement afin d'être pérenne. Pour cela, elle doit le plus possible être basée sur un système circulaire permettant le maintien et la régénération des ressources, voire leur amélioration.
Quels sont les problèmes posés par l'agriculture intensive ? Quel est l'impact du développement de l'élevage ?
Un coût environnemental élevé qui dit production intensive dit pollution de l'eau et des sols. Les engrais azotés contribuent ainsi à 22% des émissions d'ammoniac, les déjections animales et leur épandage à 75%, rappelle l'ADEME. L'agriculture produit aussi 20% des émissions de gaz à effet de serre.
Quelle solution pour mettre en place une agriculture durable ?
L'élevage est un moteur clé du développement durable de l'agriculture. Il contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. Il faudrait réduire la part d'engrais azotés minéraux et stopper l'épandage des pesticides. Adopter une meilleure gestion des ressources en eau en réutilisant l'eau de pluie et en évitant de pomper dans les nappes phréatiques et conserver des ressources génétiques, des semences. Dis-moi Lina, qu'est-ce que la transition alimentaire ?
La transition alimentaire désigne le processus par lequel une société modifie en profondeur sa manière de produire et consommer des aliments. La transition alimentaire désigne les attentes ou les efforts entrepris par les différents acteurs de la chaîne, producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, autorités publiques, pour respecter davantage l'environnement, améliorer le statut nutritionnel des aliments, développer les produits bio, frais, produits dans des conditions plus respectueuses du bien-être animal et avec une plus grande équité entre les acteurs des filières.
Anastasia et Lina sont allées visiter les cuisines de la cantine du collège. Elles ont rencontré Matteo Benassim, cuisinier en renfort à la cantine.
Il y a les brûleurs, il y a la machine. Ça, c'est comme une espèce de poêle géante, c'est une sauteuse. Voilà. Je peux l'allumer, je peux programmer la température, je peux mettre de l'eau. Voilà, je fais bouillir, je peux cuire des pâtes, je peux faire des sautés de viande, je peux faire une purée dedans et puis après j'appuie sur un bouton, ça bascule.
Je veux la même chose chez moi.
Ça coûte très cher.
Oui.
Alors après, là c'est nos fours. On en a deux. Deux tactiles. 25 000 euros le four. Voilà. C'est un ordinateur ce truc. Il y a même des recettes d'intégrer. On peut même en intégrer nous, en créer nous des recettes.
Sauf que ça fait four en même temps.
Ici, c'est notre ce qu'on appelle la plonge batterie. C'est ici qu'on nettoie en fait toutes les gamelles, tout notre matériel. Donc voilà. Mon bureau, c'est là où je confectionne mes menus, que je fais mes commandes, que je reçois les commerciaux. Et je négocie les tarifs avec la viande, le poisson, tous les aliments.
Alors bonjour, je m'appelle Lina et là il y a Anastasia. Et aujourd'hui on vient vous parler de l'écologie et plus particulièrement de l'alimentation au sein du collège.
D'abord on va s'intéresser à ce qu'on mange au collège. Ce qui est cuisiné, c'est plutôt bio, local ou du surgelé ?
Alors, bonjour les filles. Donc, pour répondre à votre question, alors, on essaye de se rapprocher de la cuisine bio locale. Voilà. Mais là, actuellement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cuisine avec un petit peu tous les produits. On mixe, en fait. Le but étant de se rapprocher le plus possible de la cuisine entièrement locale, entièrement bio. Ce qui n'est pas très évident à faire, car il faut gérer le budget et puis aussi il faut faire en sorte que ça soit varié et appétissant auprès des enfants.
Ça veut dire que cuisiner bio et local, c'est plus cher forcément?
Oui, et donc c'est pour ça que prochainement on aura certainement des aides de nos collectivités pour répondre à ces besoins.
Les aliments que vous utilisez pour composer vos menus, ils sont cherchés le jour même, ils datent de un ou deux jours?
Alors, nous essayons de confectionner les menus un mois à l'avance. De temps en temps, c'est pas évident, car il peut y avoir plusieurs soucis qui nous empêchent de répondre au timing. Comme par exemple, une personne ou deux en moins dans l'équipe, ça ne me dégage pas du temps pour prendre le temps de faire des menus.
Est-ce que les restes, il y a des restes forcément, non?
Oui.
Du coup, les restes, ils sont resservis le lendemain ou est-ce que vous allez les jeter?
Alors, ça dépend. J'ai un outil, c'est une cellule de refroidissement. En fait, c'est une espèce d'armoire qui aspire l'air chaud et qui redistribue de l'air frais. Ça permet de refroidir mes aliments, mes plats, et ça me permet en fait de respecter l'hygiène, en fait, pour éviter que les microbes se développent dans mes plats. Et je peux, grâce à cela, les redistribuer le lendemain. Comme par exemple, si les élèves n'ont pas mangé tous mes haricots, ce que je n'ai pas distribué et ce qui est resté dans mon armoire chaude qui maintient mes aliments à plus de 69 degrés, je les refroidis et je les redistribue le lendemain.
Est-ce que vous faites tout maison ou est-ce qu'il y a des choses qui arrivent déjà toutes faites?
Alors, n'ayant pas en collègue de pâtissier, donc ce ne sont pas tous les desserts qui sont confectionnés maison. Ni certains plats, si je peux prendre un exemple, les feuilletés au fromage ne sont pas maison, mais les pizzas sont faites maison. Demain, il va y avoir le Flammkuchen dans le menu allemand, ça sera maison. Voilà.
Un peu plus tôt, on est allé interroger des élèves, des éco-délégués, à propos de ce qu'elles pensaient de la cantine. Et elles nous ont dit qu'en général, quand elles mangeaient en dernier, enfin plutôt vers la fin, les plats n'étaient plus très chauds et que du coup, elles étaient obligées de les faire réchauffer. Ce serait possible de s'organiser autrement?
En fait, ça dépend de quel plat nous parlons. Parce qu'il y a des plats qu'on peut maintenir plus facilement au chaud que d'autres. Je vais prendre en exemple un bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon, vu qu'il est bien, qu'il est dans sa sauce bien au chaud, il est gardé beaucoup plus facilement qu'un poisson pané. Un poisson pané qui est à sec, en fait, la chaleur va partir plus facilement. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident de maintenir ce genre de plat au chaud. Ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse un maximum de temps jusqu'au moment du service dans l'armoire chaude. Et normalement, c'est censé être bon. Après, il y a eu quelques moments où des élèves sont venus après le service lorsqu'on mettait à refroidir nos plats. Et c'est pour ça que certaines personnes ont dû avoir quelques assiettes, les derniers, quelques assiettes froides. Mais on les prévient, on leur dit qu'il faut réchauffer les assiettes.
On a aussi une autre élève, plus tôt, qui nous a dit que parfois, il valait mieux nous servir peu dans les assiettes pour qu'on puisse revenir se servir après, parce que, d'après elle, vous mettez trop de nourriture dans les assiettes et c'est pour ça qu'il y a plus de gaspillage, parce qu'elles ont moins faim et tout ça. Et du coup, ce serait possible de mettre moins de nourriture dans les assiettes pour que les élèves viennent se resservir après?
Alors oui, c'est possible, mais j'en mettrai moins, mais pas non plus au point que les élèves viennent se resservir, parce que nous avons en effectif plein, nous avons entre 360 et 380 grands maximum qui viennent manger. J'imagine pas les 380 élèves tous se lever et venir se resservir parce que je leur ai servi 3 grammes de pâtes ou 3 grammes de légumes. Donc je préfère servir une portion. Chaque élève paye sa cantine pour manger une portion. Je leur sers chacun la portion. Si il me reste des choses et qu'ils ont encore faim, je les sers en conséquence.
Et du coup, vous auriez des idées pour essayer de lutter un peu contre le gaspillage ?
Il faut déjà commencer par l'information. Il faut que les élèves soient capables tous de lire le menu sur Pronote ou le menu qui est affiché sur l'écran à l'entrée du collège. Déjà, ça pourrait permettre aux élèves de se préparer à ce qu'ils vont manger. Et il faut que chaque élève sache qu'ils peuvent demander plus ou moins dans l'assiette. Et déjà, avec ces infos relevées chaque jour, ça nous permettrait déjà de cuisiner plus ou moins.
Et aujourd'hui, les menus végétariens, est-ce que ça fonctionne ?
Eh bien, est-ce que ça fonctionne ? On va dire, c'est 50-50. 50-50 car il y a des élèves, il y a de plus en plus d'élèves qui mangent entre guillemets végétariens, mais en même temps lorsqu'on se penche du côté des collèges où ils ne font où ils font du végétarien tous les jours, il en existe 3 ou 4 d'établissements sur Lyon, et mes collègues me disent que ils en ont marre en fait du végétarien. C'est comme ici, je fais tous les jours du poisson. J'ai l'impression que les élèves en ont marre du poisson. J'ai beau changer les sauces, il faut qu'ils mangent variés. Donc 50-50 pour les repas végétariens.
Au collège Laurent Mourguet, il y a des éco-délégués qui mettent en place des actions écologiques au sein du collège. Manon et Justine nous parlent du potager qui a été mis en place.
C'est un jardin où on plante des aliments. Après, on récolte des fraises ou de la rhubarbe, des artichauts. Et après, on fait des bacs à fleurs aussi.
D'accord. Et ce que vous récoltez au club potager, vous en faites quoi ?
On garde pour nous parce qu'il n'y en a pas assez pour toute la cantine. Du coup, on garde pour les élèves qui font au club potager.
D'accord, et vous savez si vous avez comme projet de l'agrandir pour pouvoir en faire part aux cuisines ?
Non.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à être éco-élève, éco-délégué, les pour, les contre ?
Par exemple, elle voulait le faire déjà, du coup je me suis dit on va voir quand même comment c'est. Après, ils nous avaient montré un PowerPoint sur ça, et après on a vu que c'était intéressant et tout, déjà il faut sauver la planète, du coup on a voulu le faire.
D'accord, et vous Justine, qu'est-ce qui vous donnait envie déjà avant d'avoir vu le PowerPoint ?
Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, et du coup je me suis dit pourquoi pas, du coup voilà. Et aussi comme ça je pouvais faire avec mes amis.
Parmi les problèmes rencontrés au sein du collège, il y a le tri mis en place à la cantine, c'est ce que vous explique Arthur et Florian, éco-délégués.
Déjà, ils prennent les plats sans faire attention à ce qu'ils vont manger. Et aussi, généralement, quand ils jettent, après, ils font pas le tri. Du coup, ça fait beaucoup de déchets et c'est un peu galère pour le compost.
Moi, un jour, j'ai surveillé le tri de la cantine. Je me souviens, on avait beau parler, dire aux gens de mettre dans certains bacs, ils écoutaient pas. Plus vite ils sortaient, mieux c'était pour eux, et du coup c'était assez compliqué pour le compost, on retrouvait plein de choses qui n'avaient rien à y faire.
D'après vous, comment on pourrait changer ça justement ?
En continuant de dire aux gens vraiment de pas jeter les choses au mauvais endroit.
À la limite, mettre des sanctions, c'est un peu rude, mais s'il y a trop de gens qui font ça et qui le font en répétition, leur mettre des heures de colle ou des trucs comme ça.
Par exemple, au bout de 5 fois mal trié ou pas fini, une heure de colle. Ou une sanction du genre tu nettoies la cour.
Alors pas fini, son repas à la limite pas forcément, mais par rapport au tri, si plutôt.
Anne Baldino est professeure de SVT et encadre les éco-délégués. Elle nous parle d'alimentation.
Moi, je consomme local, donc j'habite dans les monts du Lyonnais. Et on a un regroupement d'agriculteurs. Et c'est là que je vais acheter ma viande, mes légumes. Voilà. j'achète voilà, le maximum de choses ici et le minimum de choses dans les grands magasins.
Et est-ce que vous faites un compost chez vous ?
Oui, j'ai un compost chez moi.
Qu'est-ce que vous pensez de la place de l'écologie du coup au sein du collège ?
Je pense qu'on peut faire encore plus de choses dans le collège sur l'alimentation. Manger local, je sais qu'il y a des yaourts qui sont pris dans les fermes à côté, il y avait le pain qui était pris aussi dans des boulangeries locales. J'aimerais bien qu'il y ait plus de repas bio. On avait travaillé dessus il y a quelques années avec la ferme de la Bérosier qui est à côté. Il y a des élèves de 6e qui étaient allés cueillir des légumes. Et ensuite, alors, c'était la ferme qui nous les avait livrés et on avait pu faire des repas bio. Mais je pense que ça, il faudrait qu'on en fasse plus.
Au niveau de la cantine, qu'est-ce qui pour vous pourrait être amélioré ?
Alors, je pense que ce qui pourrait aussi être amélioré, c'est le tri par les élèves. On avait essayé de réfléchir à des moyens de valoriser les élèves qui finissaient bien leur assiette. C'est difficile à mettre en place, on n'a pas encore trouvé un système assez facile. Mais je pense que voilà, sur le tri, bien finir son assiette et puis sur éliminer tout ce qui est contenant plastique pour servir même les pots de yaourt, il faudrait qu'on ait des choses en vrac qu'on puisse mettre dans des pots en verre.
Donc vous pensez qu'il faudrait remplacer le plastique par le verre ?
Ah, je pense qu'il faut arrêter le plastique.
Et vous pensez aussi qu'il faudrait surveiller les élèves pour vérifier qu'ils trient bien ?
Alors, surveiller les élèves, ça, c'est effectivement un point important. On l'a fait beaucoup en début d'année, on l'a fait après certaines vacances. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit encore plus nombreux à le faire. Parce que nous, en tant que profs, on est peu nombreux à se mettre à côté de la table de tri pour le faire. Il y a des élèves aussi, on avait organisé des rotations d'élèves. Mais je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux pour que ça soit moins lourd. Parce que ça reste un travail qui est quand même long. Et fatigant d'être dans la cantine à aider les élèves à trier.
Alors, j'avais une question à vous poser. Pour vous, quelle est la différence entre le local et le bio ?
Alors, le local, c'est quand on consomme des aliments qui ont été cultivés par chez nous. Et le local peut être cultivé en bio ou pas du tout. Donc en bio, sans entrants, sans pesticides. Alors, moi, je pense qu'il faut déjà... Voilà, consommer local, si en plus c'est bio, eh bien, c'est encore mieux. Mais déjà, consommer local, ça me paraît un premier point important. Et notamment au collège, il y a une AMAP où les parents, donc les familles, peuvent venir chercher les paniers d'une ferme qui est pas trop loin. Et ça permet à tous les gens d'Écully de consommer local facilement en venant chercher leur panier directement au collège.
Eh ben, merci, bonne journée.
Dorian et Léon vont donner des conseils pratiques pour manger mieux et moins cher.
Nous allons vous présenter des solutions pour mieux manger.
Par exemple, on peut inciter les gens à acheter du bio, c'est-à-dire des produits sans pesticides, plus naturels. Mais ça coûte cher, ça, non ?
C'est vrai, et c'est aussi plus compliqué à faire. Par exemple, il est plus difficile de protéger les plantes des insectes nuisibles sans produits chimiques. Il faut donc cultiver différemment.
À la maison, on peut avoir des potagers sur son balcon ou sur son jardin. Produire ses propres aliments, c'est bio et c'est beaucoup moins cher.
Pour réduire sa consommation de viande et préserver les animaux, il faut manger plus de végétal. Par exemple, on peut acheter des steaks végétaux.
C'est bon ça ?
Oui, j'ai goûté, c'est pas mal. On peut aussi agir dans son collège en passant au bio à la cantine ou en luttant contre... le gaspillage à l'école, il faut apprendre à mieux manger.
Avec tout ce que nous venons d'entendre, nous en concluons qu'on peut agir au sein du collège, d'abord en luttant contre le gaspillage, mais aussi en achetant des produits qui viennent d'une agriculture qui utilise peu de produits chimiques et moins d'eau. Il faudrait aussi mettre en place des activités culinaires pour inciter les gens à mieux manger. On pourrait aussi agrandir le potager pour produire certains légumes pour la cantine. Voilà ce que nous pouvons faire pour la transition alimentaire du collège, au collège. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Bonne journée.